Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà, eh bien nous continuons notre réflexion sur la culture générale, qui est faite à partir de mon ouvrage « Comprendre la culture générale », paru chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années, mais qui est toujours disponible en librairie. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, nous en sommes au chapitre 10 de cet ouvrage, qui s'appelle « Les représentations religieuses ». Nous avons commencé lors de la dernière émission à parler des religions orientales. Eh bien, nous allons continuer cette réflexion sur l'Orient en l'opposant à ce que signifie l'Occident. Soit, par exemple, l'apologue du chêne et du roseau, qui, à mon avis, indique une bipolarité anthropologique fondamentale et aussi qui manifeste un principe de typologie, c'est-à-dire de classement fondamental lui aussi. On peut résumer par cette fable de La Fontaine, le chêne et le roseau, l'opposition entre l'Occident et l'Orient. Alors vous connaissez l'histoire, quand le grand vent se lève, le chêne résiste, mais finalement il est déraciné, tandis que le roseau, lui, qui plie, ne l'est pas. Donc la leçon de cette fable, c'est finalement qu'il faut savoir plier pour pouvoir triompher. Eh bien, cette idée est fondamentale, par exemple, dans le taoïsme chinois. Le vide, en effet, la notion de vide, incarnée peut-être par le non-agir du roseau, est une notion essentielle dans le taoïsme. Le mou est toujours préféré au dur, la passivité est préférée à l'activité, et le vide est préféré au plein. En effet, le vide, le mou, la passivité sont plus efficaces dans la vie. Par exemple, l'eau, qui est la chose la plus molle, triomphe du rocher, qui est la chose la plus dure. Dans le combat sans fin de la vague et du roc, ce dernier, le roc, semble inébranlable, bien sûr stoïque et fier, comme le chêne du fabuliste. Mais comme le chêne, le rocher va s'exténuer dans cette lutte et perdre la partie. Alors, vous savez que tous les phénomènes d'érosion, l'érosion marine, l'érosion aérienne, l'érosion éolienne, montrent précisément que rien n'est si dur qui ne puisse être détruit à la longue. Et tout cela montre que l'impalpable et le mou l'emportent sur le dur. Alors prenons un autre exemple un peu amusant. Si un petit bébé tombe, eh bien il ne se fait pas en général beaucoup de mal. Il ne faut pas essayer l'expérience quand même. Hein, parce que les os et le corps du petit bébé sont mous, en quelque sorte mous entre guillemets. Mais si un vieillard tombe, alors il risque de se briser, donc fracture du col du fémur par exemple, etc. Donc l'important, c'est la plasticité, le côté caoutchouteux, qui est perméable, qui est poreux. Hein. La sclérose, ce mot vient du grec sclérose qui veut dire dur, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Et la sclérose est essentielle dans la constitution d'une névrose, par exemple. On passe alors là du monde physique au monde psychologique. Un exemple type de personnage sclérosé, c'est le personnage de Jonas, dans le livre de Jonas, un des petits prophètes qui se trouve dans la Bible. J'ai commenté cette histoire de Jonas dans mon livre « La source intérieure » qui vient d'être réédité chez BOD, Books on Demand, hein, avec une préface d'André Gounel. Donc j'ai montré que Jonas était un personnage psychorigide qui n'admet aucun changement, aucune transition. Il n'admet pas, par exemple, que le pardon de Dieu soit accordé aux habitants de Ninive. Et finalement, il n'admet pas l'injustice du pardon, parce qu'à ses yeux, aux yeux de Jonas, hein, ce pardon fait bon marché, justement, de ceux qui font le bien tout au long de leur vie. Finalement, ce personnage veut simplement dormir, mourir, être englouti par le gros poisson, qui n'est pas un châtiment comme on le croit, mais le désir le plus secret de Jonas, dormir, mourir, hein, et donc de ne plus participer à cette vie où les méchants peuvent être pardonnés. Alors, il faut donc se méfier de ces personnalités qui sont, je dirais, pour prendre une comparaison avec l'informatique, inscrite en ROM, Read Only Memory, hein, c'est-à-dire mémoire seule lisible, hein, alors que l'important, c'est la RAM, hein, la Random Access Memory, c'est-à-dire une mémoire qui peut être volatile, mais qui est toujours susceptible de renouvellement. Alors, cet éloge du vide nous surprend, nous, à nous occidentaux. Nous sommes habitués à une culture de l'action et de l'énergie. Et lorsqu'on nous présente, par exemple, comme le Tao Te King de Lao Tzu, l'éloge du non-agir, du vous-veille, hein, eh bien, finalement, nous sommes comme désarçonnés. Nous ne comprenons pas pourquoi on ne valorise pas l'action. Hein. Alors, le Tao Te King, c'est un livre essentiel. C'est le livre de la voie VOIE, hein, Tao c'est la voie, et de la vertu. Hein. C'est un livre fondamental, il est très court, hein, il est composé de beaucoup d'aphorismes, et en voici quelques-uns. Lao Tzu nous dit, 30 rayons se rejoignent, pour former la roue d'un char. Hein. Sans les rayons, il n'y a pas de roue, bien sûr, et donc les rayons sont utiles. Mais l'usage de la roue du char est lié au vide du moyeu. Donc il faut bien opposer l'utilité, la matière, hein, qui est nécessaire, mais qu'il faut relativiser. Et l'usage est beaucoup plus important. Autre exemple, pour faire une maison, on empile des parpaings, ou des briques, hein. Donc on fait des murs, et les murs sont utiles, mais l'usage de la maison vient du vide qui est à l'intérieur de la maison. On peut circuler dans les pièces, hein. Donc l'usage est préférable à l'utile. Pareillement pour faire un vase, mettons un vase d'argile, il faut de l'argile, il faut donc du matériau, et celui-là est utile. Mais l'important, c'est que l'usage du vase vient du vide qui est à l'intérieur de ses parois. Donc, vous voyez que l'utilité doit céder devant l'usage. Et Lao Tzu se comparait lui-même soit à un bébé, un petit enfant qui tétait encore sa mère et qui ne savait pas encore parler, soit à une feuille morte poussée par le vent. Et là, c'est le côté féminin de l'âme qui parle ici, hein. Elle s'abaisse pour triompher, cette polarité féminine. Autre exemple pris par Lao Tzu, la plaine, étendue au pied de la montagne, elle triomphe de la montagne. Pourquoi ? Parce que tous les fleuves viennent dans la plaine. D'abord, ce sont les torrents qui viennent des sommets de la montagne, et puis les grands fleuves qui viennent fertiliser la plaine. Donc la plaine est préférable à la montagne. Alors, socialement, le taoïsme, c'est un individualisme anarchisant. Et c'est un des pôles de la culture chinoise. L'autre pôle, c'est le confucianisme. Alors, le taoïsme nous montre une sagesse intériorisée. Le confucianisme nous dit comment nous devons nous comporter dans l'existence sociale. C'est une philosophie de la socialisation. Et les deux pôles s'opposent, comme peuvent s'opposer féminin et masculin, introversion et extraversion, vie contemplative et vie active, etc. Donc, en un sens, il faut bien comprendre que cette culture chinoise a un équilibre parfait entre les nécessités de la socialisation, Confucius, et puis l'acquisition d'une plasticité intérieure qui concerne l'individu. Alors aussi, l'homme taoïste, c'est comme disait Michaud, un homme effacer. Hein. Il s'agit donc de détruire le moi, le petit ego, égocentré en quelque sorte. Hein. Le moi ne doit pas exister en tant que forteresse inexpugnable. C'est comme un oignon qui a différentes enveloppes. Il faudrait, nous dit Lao Tzu, être comme une porte battante, ouverte aux choses. Il faudrait être passant. Et être passant, c'est un logion de l'évangile selon Thomas, de l'évangile apocryphe selon Thomas. Soyez passant. Jésus a dit, soyez passant. La vision habituelle que nous avons chez nous, une vision de l'autocontrôle, celle d'Auguste, par exemple, dans Cinna de Corneille, je suis maître de moi comme de l'univers, je le suis, je veux l'être, etc. Cette vision disparaît à ce niveau. Et il n'y a rien de si opposé à l'Orient que cette idée d'un moi constitué et construit, définitif et séparé des choses, un imperium in imperio, comme on dit en latin, c'est-à-dire un empire dans un empire, un moi qui se contrôlerait constamment, qui serait immuable et maître de lui-même, potens sui, comme on dit en latin, maître de soi. Hein. Cette idée est une idée romaine, stoïcienne d'origine. Elle a passé ensuite en Occident, elle a donné chez nous l'idéal du héros. Mais finalement, comme le dit Arnold Toynbee dans son livre essentiel « La religion vue par un historien hein, », cette posture d'auto-affirmation mène à l'auto-idolâtrie. L'homme va s'adorer lui-même, hein, construire sa propre statue, comme disaient les anciens stoïciens. Et je crois que dans le Tao Te Ching, on a au contraire le respect d'autre chose, le respect d'un certain mystère extérieur à l'homme qui échappe justement à sa compréhension, à sa mise en avant. Des choses comme l'ataraxie, l'absence de trouble, l'autarcie, le fait de suffire à soi-même, et même l'apathie, ou apatheia, au sens grec, hein, c'est-à-dire l'insensibilité ou l'impassibilité antique, hein, ce sont des choses qu'il faut voir comme des attitudes sereines, qui ne sont pas crispées. Le moi ne se barricade pas dans sa forteresse, et suivre le Tao, suivre la voie, c'est abandonner le moi, c'est passer du nageur à la vague, ou bien être comme le vent qui nous porte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Et cet abandon du moi, de l'ego, au profit de la perception d'un monde plus large, Jung, Carl Gustav Jung, disciple dissident de Freud, hein, l'appelait la réalisation du soi, hein, le soi, c'est-à-dire une vision beaucoup plus large que la vision restreinte du petit moi. Donc il y a nécessité de relativiser les références strictement personnelles, nécessité d'une humilité intellectuelle ou d'un sacrificium intellectus, c'est-à-dire sacrifice de l'intelligence pour atteindre cet élargissement de l'horizon mental. Thank you. Lao Tzu disait qu'il fallait en toute chose suivre la propension naturelle des choses, hein, se laisser aller, alors suivre le courant. Hein. Bon, regardez par exemple les numéros de cirque chinois. Il me semble intéressant, ces numéros de cirque valorisent quoi ? Des équilibres, parfois des équilibres improbables. On va empiler des chaises les unes sur les autres, de façon à ce qu'elles ne tombent pas, à ce que l'échafaudage ne se casse pas la figure, pour ainsi dire. Hein. Donc les Chinois sont fascinés par tout ce qui tient debout, hein, même de façon invraisemblable. Alors que chez nous, regardez les numéros de cirque occidentaux, spécialement le dressage de fauves. Hein. Eh bien, l'homme se met en avant, veut dominer les animaux, hein, et finalement s'affirmer comme maître de toutes choses. Jamais on ne voit, justement, dans les cirques chinois, de dressage de fauves. Alors, par parenthèse, je vous signale qu'il y a actuellement une contestation, justement, de ces numéros de fauves, hein, des animaux sauvages utilisés dans les cirques. Il y a des lobbies importants. Hein, à mon avis, leur position peut se défendre tout à fait, hein, pour interdire le dressage de fauves, comme il se voit, par exemple, déjà dans certains pays, interdire le dressage dans les cirques. Et même chez nous, il y a des cirques comme le Cirque du Soleil, par exemple, qui refusent justement l'intervention des animaux sauvages. Voilà. Alors, cette opposition, il n'y a pas de petits détails, vous voyez. On comprend une culture par ses productions culturelles, même infimes, même peu importantes. Hein. L'équilibre d'un côté, hein, et puis l'affirmation avec le fouet, hein, de l'homme face à l'animal. Donc, je parlais tout à l'heure du sacrifice de l'ego, du tout à l'ego, comme on dit, hein, tout au moins. Bon, il faut, je rappelais la phrase de Michaud, l'homme taoïste est un homme effacé. Hein. Eh bien, il y a chez nous, hein, aussi, une tradition, mais il faut bien la lire, hein, dans l'évangile chrétien, hein, et de ce point de vue, j'oppose absolument le Premier Testament et celui qu'on appelle le Second Testament, hein, où se trouve l'évangile chrétien. Dans le Premier Testament, vous avez l'idée que l'homme doit être comme maître et possesseur de la nature, et donc dominer tout ce qui existe, y compris les animaux. Je retrouve mon dressage de fauve, dont vous avez une vision anthropocentrique de l'homme. Bien sûr, il y a Dieu au-dessus de l'homme, mais quand même, l'homme est le roi de la création. Tandis que dans l'évangile, vous n'avez pas ça du tout. Hein, vous n'avez pas ça du tout. L'évangile prêche la dépossession et l'abandon du petit ego, la fin du moi. Alors, ne faites pas de faute d'orthographe à la fin du moi. Hein. Bon, la fin du mois. Regardez ce que dit l'évangile. Hein. Si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruits. Hein. Donc il faut mourir à quoi ? Au petit ego, au petit moi, hein. Et celui qui veut sauver sa vie la perdra, celui qui veut la perdre la sauvera, vous voyez ? Bien sûr, il ne faut pas prendre ces phrases au sens littéral, parce que ça pourrait être catastrophique, hein. Catastrophique, ça pourrait justifier le martyr soi-disant qui peut être involontaire, hein, mais qui peut être aussi volontaire, hein, le kamikaze ou le fou de Dieu, hein, si le grain ne meurt, etc. Donc, alors, prenons ça au sens symbolique et pas du tout au sens littéral. Hein. Il s'agit de mourir au petit moi en soi, pour faire naître le grand moi ou le soi. Hein. Imaginez le petit moi comme une île, et le reste, c'est le grand océan qui entoure l'île avec l'infinité des postures face à la vision unilatérale du moi, ou bien, je ne sais pas moi, la partie émergée d'un iceberg par rapport à la partie immergée qui est beaucoup plus importante. Donc, tout se passe comme si la voix de Jésus ici, hein, je dis bien, il y a une opposition absolue entre ça et le début de la Genèse. Hein. comme si Jésus avait été une sorte, alors je dirais, de sage taoïste, hein, un sage taoïste. Et alors, quant à l'expression « celui qui veut sauver sa vie la perdra, celui qui veut la perdre la sauvera », il faut bien noter que « la sauvera » est mal traduit. En effet, le texte en grec c'est « zoogoneseioten », c'est-à-dire « la rendra vivante, la vivifiera ». Pour que notre vie soit vivante, il faut abandonner les prétentions du petit moi. Alors, Jésus a-t-il été une sorte de clochard post-68ard, taoïste, hein, baba cool, avant la lettre, bon, peut-être, hein, imaginez un hippie en basket, hein, pourquoi pas, hein. Bon, de toute façon, ce message c'est « videz-vous de toute initiative personnelle, soyez insouciants, laissez-vous aller ou emplir par le royaume, que le royaume vienne, dit notre Père, et non pas « arrivons-y ». Laissez le royaume venir en vous. Où est-il le royaume? Eh bien, il est à l'intérieur de nous, entos imon, comme le dit Luc dans son chapitre 17, verset 21, qui est toujours très mal traduit, puisque vous trouverez le royaume est parmi vous, pour nous socialiser. Mais le sens, entos imon, c'est le royaume est à l'intérieur de vous. Hein. Donc, Jésus, finalement, nous invite à nous retrouver hein, par une sorte d'introversion. Et l'attitude qu'il préconise, c'est la disponibilité, l'attente, l'ouverture, se vider en quelque sorte, une espèce de kénose, dans un autre sens que celui qu'il y a dans l'épître aux Philippiens. Hein. Donc, c'est évidemment tout à fait taoïste d'inspiration. Hein. Et j'avais dit dans une émission précédente qu'il y a yoga, par exemple, chrétien, c'est l'hésychasme des moines du Mont Athos, des exercices sur le souffle, pour acquérir justement la vision taborite, la vision du tabor, la vision de la transfiguration, en quelque sorte, ce travail sur le souffle, c'est un yoga chrétien. Hein. On pourra comparer aussi le quiétisme occidental, qui cherche le repos, la tranquillité. Hein. Et alors, hésychasme vient de hésychia, qui veut dire le repos, quiétisme, c'est du latin, qui est le repos aussi. Hein. Alors tout cela, ce travail sur le souffle, sur la respiration, la sérénité que l'on y trouve rappelle la philosophie chinoise du qi, hein, Tai Chi Chuan par exemple, vous voyez, c'est le souffle, l'énergie qui emplit toute chose. Donc, il faut voir que toutes les traditions spirituelles se retrouvent dans ce que Huxley appelait la philosophia perennis, la philosophie éternelle. Hein. Et finalement, cette idée de dépossession, regardez par exemple chez ce que dit Jésus, hein, regardez les lys des champs et les oiseaux du ciel, ils ne travaillent pas et pourtant ils ne filent pas, et pourtant Salomon dans toute sa gloire ne fut pas vêtu comme l'un d'eux. Hein. N'avez-vous pas plus de prix que les oiseaux du ciel et les lys des champs, hein, nous dit Jésus, hein. Notre Père des cieux les nourrit, donc il les habille, alors à plus forte raison, vous, hein, ses enfants, à plus forte raison, il vous nourrit. Il et il vous habillera. Hein. Donc, à chaque jour suffit sa peine. Laissez-vous aller, vivez chaque instant. Hein. C'est vraiment un éloge d'une vie dépossédée. Hein. Alors, je ne sais pas si un chrétien peut avoir un livret de caisse d'épargne, hein, c'est-à-dire penser au lendemain. Hein. Vous savez, là où est l'écureuil qui thésaurise. En tout cas, il est sûr qu'il y a en christianisme ce que Charles Péguy appelait le devoir d'imprévoyance, hein. Ne pas penser au lendemain. Alors, bon, livret de caisse d'épargne, je ne sais pas, hein. C'est peut-être une contradiction, hein, comme un peu comme un anarchiste qui serait inscrit à la sécurité sociale, par exemple, hein. Ce serait contradictoire ou oxymorique. Bon, je crois que si l'on regarde bien ces textes, hein, c'est quand quand même de la dynamite. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, hein, dit Jésus. Donc pourquoi acquérir thésaurisé? Voyez aussi la fameuse parabole de celui qui veut acquérir, remplit ses greniers, etc. Et puis une voix lui dit au fond de lui-même, malheureux, ce soir même on te redemande ta vie. Hein. Alors à quoi sert d'acquérir, hein, d'avoir cet instinct, comme on dit en grec, pléonexiaque, c'est-à-dire vouloir toujours avoir des choses nouvelles, si c'est pour après être le plus riche du cimetière? Ça sert à rien, hein. Un linceul n'a pas de poche, hein. Voilà. Donc, je crois que si, on a édulcoré tout ça, hein. On l'oublie chez nous, hein. Mais si on regarde bien les textes, bon, eh bien, on y verrait un idéal de vie tout à fait différent de celui de nos contemporains, par exemple. Je pense à ces émeutes qui ont suivi justement dans les magasins Intermarché. La promotion d'un pot de Nutella, hein. Bon, 70% sur le pot de Nutella, les gens se sont rués sur les magasins Intermarché, se sont battus, étripés, arrachés les cheveux, déchirés les vêtements, au point qu'il a fallu que la police ou la gendarmerie intervienne, tout cela pour une réduction sur un produit qui est fait de sucre et d'huile de palme, et qui fait le bonheur des cardiologues, hein. Et on se bat pour donner à sa progéniture ce poison, en quelque sorte, et on risque sa vie. Voilà. Alors non, ça c'est vraiment quelque chose de terrifiant. Hein. Comme le disait René Char, « Obéissez à vos porcs qui existent, je me soumets à mes dieux qui n'existent pas. Hein. » C'est-à-dire, bon, le supermarché est plein, et puis l'église se vide, ou le temple, hein. Eh bien, y a-t-il des dieux de remplacement? Non, en tout cas, la seule position, c'est la sécession, pour reprendre ce que dit Char. Hein. Gilles Châtelet a écrit un livre qui s'appelle « Vivre et penser comme des porcs », hein. Donc je crois qu'il faut un peu réfléchir à cette question. Alors là, je viens de faire un excursus, c'est-à-dire une digression. J'espère que vous ne m'en voudrez pas beaucoup, hein. Mais tout cela se tient finalement, hein. Tout se tient, hein. Alors, j'amorce simplement une petite réflexion sur l'usage du vide, hein, que je continuerai lors de la prochaine émission. J'ai parlé du taoïsme chinois. Dans le zen aussi, c'est-à-dire dans la version japonaise du bouddhisme, vous avez l'éloge du vide. Tout l'art japonais manifeste cette prépondérance du vide, hein. Pensez par exemple à la calligraphie, où le trait se fait de façon péremptoire, sans repentir, sans gommage, on ne gomme pas, hein. Pensez aussi à l'ikebana ou à l'art des bouquets, hein. On prend trois fleurs par exemple, ou une tige et deux fleurs, etc. Et on laisse du vide circuler entre les végétaux, hein. Donc dans la calligraphie, la page blanche est beaucoup plus importante que les signes eux-mêmes qui figurent sur la page blanche. Il faut en effet que l'air circule entre les signes, et même chose pour le bouquet, il faut que l'air circule entre les végétaux. Et les composants du bouquet doivent être minimaux pour que le vide où ils s'inscrivent soit plus important qu'eux-mêmes. Hein. Et il faut opposer à cela les formes géométriques rationnelles, tandis que dans l'ikebana, les formes sont inégales, ne sont pas symétriques. Hein. Nous préférons le jardin à la française avec des formes rationnelles, et puis aussi une surcharge de matériaux, une surcharge chromatique et de matière dans nos jardins. Plus il y a de fleurs dans un parterre, par exemple, meilleur est le résultat, pensent certains jardiniers chez nous. Hein. Et de même, quand nous composons un bouquet, eh bien, nous amassons, nous mettons le plus de faire possible ensemble, et tout cela est aux antipodes de la légèreté, de l'abstraction aérienne d'un bouquet japonais. Donc nous valorisons la performance, et au contraire, eux valorisent la justesse. Pour nous, c'est le record, la quantité. Prenez par exemple un bouquet peint par Bruegel, par exemple, et comparez-le avec une composition de l'ikebana, vous verrez une différence fondamentale. Voilà, eh bien écoutez, je vais vous laisser, nous continuerons la prochaine fois cette réflexion toujours sur le vide, et nous ferons une espèce de synthèse sur les différentes religions. Voilà, rendez-vous à la prochaine émission.
retrouver Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.